J'étais au concert avec ma mère. En plein concert, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Et en fait, ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la voix de barre avec des fusils à pompe. C'est un cauchemar.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Salut, c'est Ziad Malouf. Cette semaine, comme chaque semaine, nous nous sommes demandé ce que nous allions pouvoir vous raconter aujourd'hui. Nous avons hésité et puis finalement, nous n'avons rien changé à notre programme. Depuis 2 mois, Mélissa Barra travaille sur le complotisme, le conspirationnisme, cette manière étrange de voir le monde, la politique, l'actualité, où tout serait lié à des forces obscures et omnipotentes. Nous allons consacrer plusieurs émissions à ce phénomène qui, bien entendu, est intrinsèquement lié à la régression généralisée, à la barbarie triomphante et au fanatisme. Dans ses recherches, Mélissa a découvert un personnage singulier, professeur d'histoire-géographie. Comme beaucoup de ses collègues, il a été confronté aux théories du complot avec ses élèves. Il a décidé de réagir, probablement comme beaucoup de profs également, mais aussi de le faire savoir. Je laisse Mélissa vous raconter la suite.
Une triste impression de déjà-vu, de déjà-vécu nous a envahi cette semaine à Paris. Comme au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la Porte de Vincennes, je me suis demandé comment des jeunes, certains de mon âge, ont pu céder aux discours absurdes, simplistes et haineux. Comment ces jeunes ont pu croire aveuglément à tous ces faux messages qui circulaient et continuent de circuler sur Internet. J'ai surtout voulu savoir comment on pouvait empêcher que d'autres jeunes tombent dans le piège de la manipulation. Depuis vendredi 13 novembre, et pendant plusieurs jours encore, des enfants et des adolescents se posent de nouveau une avalanche de questions. C'est notamment le travail des enseignants de les écouter, de tenter de répondre et d'accepter aussi qu'il n'y a pas de réponse à tout. À Rennes, dans l'ouest de la France, j'ai rencontré un de ces enseignants, Ronan Chérel. Ce professeur d'histoire-géographie avait publié le 20 janvier dans l'hebdomadaire L'Obs, anciennement le Nouvel Observateur, un article intitulé « Charlie Hebdo, la théorie du complot séduit mes élèves, je veux les former à l'analyse ». Son article m'avait interpellée parce que, jusqu'à présent, je pensais que le conspirationnisme était plutôt une affaire marginale et surtout une affaire d'adultes, de youtubeurs et d'illuminés. Je suis donc allée le voir au collège où il enseigne, le collège Rosa Parks, dans le quartier populaire de Villejean, à l'ouest de Rennes. Je précise que c'était il y a 2 semaines, donc avant les événements récents de Paris.
Les élèves ont été profondément choqués. Ce qui les choquait, c'est qu'ils découvraient finalement l'existence de la mort collective, de l'insécurité et du fait qu'un attentat terroriste pouvait souffler la vie d'un groupe de personnes en une seconde, comme ça, sans qu'on puisse comprendre ou surtout envisager ce danger-là à l'avance ou s'y préparer. Donc ils ont été profondément choqués par ça. Certains élèves ont été tout de suite, parce qu'ils regardaient, la télévision est un média extrêmement, extrêmement courant, certains élèves ont tout de suite dit oui, mais c'est normal parce qu'il y a eu des provocations de Charlie Hebdo. D'autres ont dit mais certainement pas, on ne peut pas, au nom de nos conflits ou du fait sur le fait qu'on ne soit pas d'accord, on ne peut certainement pas tuer des gens par rapport à ça. Des petits débats ont commencé à naître comme ça.
Dans les jours qui ont suivi les attentats.
Je dirais que la première gestion en classe de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo a été de gérer l'aspect émotionnel, puis le désir de compréhension des élèves, parce qu'ils étaient choqués par un événement qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Une autre tendance dans le débat, entre guillemets, dans la discussion avec les élèves, a émergé une semaine plus tard, mais toujours à la suite de 2 phénomènes. Premièrement, l'apparition d'une lecture complotiste sur ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, avec les rétroviseurs qui changent de couleur, le fait qu'il n'y a pas de sang qui coule de la tête du policier qui s'est fait tirer dessus, etc. Si les élèves ont parlé de ces choses-là, ce n'était pas parce qu'ils l'avaient pensé eux-mêmes, c'était parce qu'ils l'avaient et ils avaient trouvé ces informations quelque part. Donc c'est toujours un rapport aux médias. En l'occurrence, c'est parce qu'à la télévision, il y a commencé à avoir certains messages que l'on qualifie de complotistes ou d'explications parallèles sur le fait qu'il y avait des incohérences par rapport à l'explication traditionnelle transmise par les médias sur ce qui s'était passé. À la télévision et sur Facebook, beaucoup de messages ont circulé pour dire non, ça s'est pas passé comme ça, tenez, allez voir telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'en fait, le moyen premier de obtenir des informations sur ce qui se passe, c'est d'abord, pour un élève en tout cas, c'est d'abord de regarder la télé, numéro 2, d'ouvrir sa page Facebook sur Internet, et à partir de là, tout est véhiculé. Et quand je dis tout, c'est tout et n'importe quoi. Moi aussi, j'ai une page Facebook et j'ai pu voir que il recevait des messages d'amis en rapport avec des amis, etc., leur demandant de liker une vidéo qui était présentée sur YouTube et qui disait que effectivement c'était encore un complot de la communauté juive, un complot des francs-maçons, un complot du Mossad, donc des services secrets israéliens, de la CIA, voire que le président François Hollande était complètement en cause dans ce qui s'était passé. Ce qui se passe, c'est que dans la tête d'un élève, à partir du moment où il reçoit une information sur Facebook, il n'est pas en posture d'établir une hiérarchie de l'information. C'est-à-dire que tout arrive, et de l'autre côté, en tant qu'adulte, si on voit ça, on peut se dire, mais c'est extrêmement dangereux, il n'y a pas de hiérarchie d'information, de vérification d'information, mais au final, je dirais que l'enfant ou l'adolescent qui a simplement ouvert son Facebook, entre guillemets, n'y est pour rien s'il a reçu ça sur sa page.
Sommes-nous dans une machination orchestrée par le gouvernement ? Nous savons depuis très longtemps déjà que la pratique des attentats sous faux drapeau à des fins de manipulation des masses existe. Depuis que nous savons que Pearl Harbor était plus ou moins une provocation volontaire, que le 11 septembre était prémédité, qu'il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak, que l'affaire Mira sans le traquenard à plein nez.
Everybody's guilty until proven innocent.
Le lundi suivant les attentats de Charlie Hebdo, je m'attendais à ce qu'il y ait encore quelques conversations à avoir sur ce qui s'était passé, mais on en avait parlé pendant une semaine. Je pensais qu'on allait pouvoir reprendre, je dirais, un fonctionnement traditionnel dans les cours en classe. Il se trouve que le lundi matin, je travaillais à la prison de Rennes, où j'ai des détenus qui sont étudiants, et avec eux, arrivant dans la salle de cours, puisque je ne les avais pas vus depuis les attentats ont lieu avant qu'on puisse en parler ensemble. Donc je les vois en classe à la prison, et je leur offre la même possibilité de dialogue que j'avais fait avec mes élèves pendant une semaine. Je leur dis, il y a eu les attentats la semaine dernière, est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ? Il y a eu un silence, et puis de manière... C'est ça qui est très étonnant, de manière collective. Ils ont dit, ben non, merci, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'en parler, on sait déjà, on sait ce qui se passe. J'ai été étonné, puisque moi je n'avais pas l'impression de vraiment savoir ce qui se passait, pourtant j'en entendais beaucoup parler. Ils m'ont dit, mais non, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, on sait ce qui se passe, parce que tout ça, on sait bien que c'est, comme d'habitude, le complot judéo-maçonnique Illuminati. Et là, j'ai été extrêmement surpris et décontenancé. Je leur ai dit, mais de quoi vous parlez ? Ils ont dit, mais Ronan, ça va, me dis pas que toi, tu n'es pas conscient, bon, t'es notre prof, t'es intelligent, tu fais des études, tu travailles là-dessus, me dis pas que tu crois vraiment la thèse officielle de ce qui s'est passé durant les attentats de Charlie Hebdo ou le 11 septembre. Tu es clairement conscient, Ronan, qu'il y a un complot mondial judéo-maçonnique qui existe. Et je les ai regardés comme un petit enfant parce que je comprenais pas du tout de quoi ils me parlaient. Je savais ce que c'était que le complot Illuminati, tout ça, parce que je regardais des films fantastiques, parce que Da Vinci Code, c'était amusant, c'est stimulant, mais pour moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose de réaliste du tout. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser en disant, mais vous vous trompez complètement, il n'y a pas de complot. Et puis finalement, de manière extrêmement condescendante, ils ont décrit complètement ce qu'était pour eux la réalité du monde à travers le complot judéo-maçonnique, Illuminati, etc.
Une vision du monde qu'ils ont adoptée à partir de quoi ?
Eh bien, ça a forcément été ma question, à un moment donné, de savoir sur quelle source ils s'appuyaient. Moi, j'ai fonctionné avec mes outils d'historien et de scientifique traditionnel. Un historien, ça travaille sur des sources, et ça ne falsifie pas les sources. Elles sont sacrées, nous sommes comme des médecins légistes du passé. C'est à partir de sources que nous construisons un raisonnement intelligent sur ce qui s'est passé. En quelques minutes, et de manière, c'est ça qui est troublant, hein, c'est la notion de collectif. De manière collective, en rebondissant chacun sur la parole du précédent, ils m'ont établi un raisonnement en béton armé bien plus persuasif et cohérent, ou en tout cas convaincant que le mien, sur le fait qu'il y avait un complot, alors que je leur disais que ce n'était absolument pas vrai. Ils se sont appuyés sur des références littéraires fournies, que je ne connaissais pas, avec des citations précises qu'ils connaissaient, c'est-à-dire que c'est comme si je m'étais retrouvé du jour au lendemain face à une assemblée d'universitaires qui maîtrisaient mieux un sujet que moi. Et j'ai été complètement décontenancé. C'est-à-dire qu'avec ma rigueur, ma réflexion, mon expérience, mon habitude de travailler sur les questions géopolitiques, sur le fonctionnement du monde pour expliquer le monde tel qu'il est, je me suis fait complètement ramasser dans mon argumentaire en quelques minutes. L'humilité, c'est important dans ces cas-là. Je me suis dit que je reviendrai avec des arguments préparés. Mais ce qui fait que qu'il y ait un vrai respect avec eux, c'est qu'au lieu de leur dire qu'ils avaient tort et puis que je ne pouvais pas le démontrer, je leur ai dit « Faites-moi une liste de vos lectures, je vais retravailler à la maison, non pas pour vous convaincre que vous avez tort, mais je veux comprendre ce que vous m'avez dit. » Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la théorie du complot. C'est-à-dire que jusqu'ici, ce qu'on appelle la complosphère, c'était quelque chose d'extrêmement diffus, vague, qui concernait quelques personnes isolées, peut-être crédules, peut-être manipulées, je ne savais pas trop comment définir la chose, mais pour moi il n'y avait pas de phénomène collectif dans tout ça. Et du jour au lendemain, je me suis confronté à ça, je me suis dit, alors maintenant, c'est sérieux. Bon, on était juste le lundi en fin de matinée. Le problème, c'est que l'après-midi, j'avais cours avec mes élèves de collège, et que, arrivant en classe, j'ai commencé à leur poser une question tout à fait naïve. Et alors, selon vous, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, est-ce que on peut arrêter d'en parler? L'explication officielle vous convient, etc. Et dès que j'utilisais le mot « explication officielle », j'ai quatre élèves qui ont dit « Ah mais non, l'explication officielle, c'est n'importe quoi, on sait bien qu'il y a un complot derrière. » Et de manière complètement surprenante, je me suis retrouvé en deux secondes exactement dans la même situation que face à mes détenus à la prison de Rennes. Exactement le même discours, les mêmes documents, les mêmes sources, les mêmes argumentaires, une sensation de déjà-vu extrêmement déplaisante. Mais de manière un déjà-vu identique. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème.
Ronan Chérel n'a pas été le seul enseignant en France à avoir eu avec ses élèves ce type d'échange. À la suite des événements de janvier 2015, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait annoncé le lancement d'une campagne nationale.
Tous les partenaires de l'école que je viens d'évoquer seront sollicités pour participer à ces assises de l'école pour les valeurs de la République.
Parmi les 11 mesures de cette campagne, il y avait le renforcement du programme scolaire pour lutter, je cite, « contre la mésinformation des élèves, la pénétration des théories du complot et la défiance à l'égard des médias traditionnels ». Dans son collège à Rennes, Ronan Chérel a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.
À partir du moment où on est confronté à un public, que ce soit des élèves de collège, mes étudiants à l'université ou à l'école de statistique, ou bien les détenus à la prison, ma responsabilité d'enseignante est de ne jamais abandonner mes élèves. C'est-à-dire que c'est ça à la base de la relation de confiance entre l'enseignant et son public. C'est que si mes élèves sont sur une mauvaise pente, je ne peux pas les abandonner, je dois les accompagner, répondre à leurs questions, les aider à trouver leur propre raisonnement de manière cohérente et revenir sur le chemin du rationnel. J'ai commencé, comme j'avais fait la semaine précédente, par écouter. Je pense que c'est la meilleure des postures dans ces cas-là, pour ne pas juger et ne pas bloquer la parole en disant « Mais non, vous avez tort, vous dites n'importe quoi, moi je suis adulte, moi je sais, etc. » On ne peut pas construire une bonne relation de communication et d'enseignement avec des élèves si on est en posture de blocage parce qu'on détermine qu'on a le savoir et que les autres ne savent rien et qu'ils dépendent de nous. Le savoir est quelque chose qui se partage de manière réciproque et il peut aller dans les deux sens. J'estime que si je sais tant de choses aujourd'hui, c'est surtout parce que les élèves m'en ont appris énormément. Les professeurs d'histoire ont peut-être été davantage que les collègues des autres disciplines confrontés en classe avec notre approche historique sur ce qui se passait autour de ça et donc ont confronté aux théories complotistes. C'est à partir de là que j'ai conçu qu'il y avait un vrai problème qui existait et qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme. Je n'avais pas au moment où j'ai tiré cette sonnette d'alarme, les moyens de me confronter à cette situation naissante, mais j'ai voulu alerter mes contemporains sur le fait qu'il y avait un problème. C'est pour ça que j'ai écrit un article dans le Nouvel Observateur, un article peut-être intuitif, peut-être sensible à un moment donné, parce que j'étais relativement désemparé et que j'estimais que d'autres personnes pouvaient elles aussi être désemparées. Ce que j'ai simplement écrit, c'est qu'au final, on ne pouvait pas rejeter ceux qui cautionnaient les théories du complot, parce que sinon, nous, en tant qu'adultes et en tant qu'enseignants, on se retrouvait à rejeter notre public, voire à rejeter nos enfants. Et qu'à partir de là, c'est certainement pas dans le blocage, la fermeture, le rejet que l'on règle un problème. Si les théories de complotistes fonctionnent de la manière d'une maladie épidémique, à partir de là, ce n'est certainement pas en rejetant ou en jugeant le malade comme si c'était un pestiféré que l'on réglera la diffusion de la maladie. C'est en s'y confrontant, en essayant de l'expliquer, de l'analyser, de voir un petit peu comment elle fonctionne, que l'on trouvera des vaccins. Et pour nous, un vaccin, ça veut dire établir un processus scolaire, un processus éducatif pour sensibiliser les élèves à un problème, à un dysfonctionnement intellectuel, pour qu'eux-mêmes, quand ils y seront confrontés, ne tombent pas du tout dans le piège.
Vacciner contre les discours conspirationnistes, cela revient pour ce professeur d'histoire-géo à consacrer une grande partie de son cours à l'analyse critique des médias. Une démarche qu'il a commencée au lendemain des attentats de janvier.
Pour avoir déjà géré des crises, entre guillemets, en classe, quand je dis des crises, c'est des événements violents dans la société ou à l'extérieur qui impactent le fonctionnement de la classe, je me doutais que de toute façon, il y aurait quelque chose à faire avec les élèves ou que l'organisation traditionnelle des cours serait perturbée. Donc, dès que l'événement a eu lieu, psychologiquement, je me préparais à devoir faire de la gestion de crise avec les élèves et non plus un enseignement traditionnel. Mais nous avons une priorité dans l'enseignement, c'est assurer la sécurité des élèves. Et je pense que dans cette démarche d'assurer la sécurité des élèves, il était essentiel de leur offrir de nouveau la sécurité dont ils avaient besoin pour se sentir en confiance et travailler en classe. Ils n'étaient pas menacés dans la classe, mais ils étaient menacés dans leur compréhension des choses et dans leur place dans la société. Ils avaient donc besoin d'être rassurés par rapport à ça. L'année dernière, comme il fallait réagir, je dirais, quasi à chaud face à cette situation-là, j'ai utilisé mes outils traditionnels, c'est-à-dire l'analyse critique des médias. En faisant en classe avec mes élèves de 3e l'analyse critique des médias, c'est-à-dire le fonctionnement des médias et aussi évoquant leur dysfonctionnement, leur expliquant que il y avait une différence entre l'histoire, la mémoire et le souvenir. Le souvenir, je l'ai vécu, la mémoire m'est transmise, elle est collective et qu'elle a une part de sensibilité très très forte qui peut me faire dire des choses qui sont au-delà de la réflexion. L'histoire est l'explication rationnelle, logique, scientifique des choses. Et de dire que les médias parfois s'emparent de ces trois thématiques et peuvent les mélanger, ben j'apprenais à mes élèves à distinguer les trois lectures du passé et à partir de là, je les préparais quelque part au fait qu'il pouvait y avoir différentes formes d'interprétation du passé. Mais je ne me suis pas retrouvé dans une confrontation directe avec eux à leur dire « la théorie du complot, c'est bidon, c'est du vent, c'est n'importe quoi ».
Quel fait historique avez-vous abordé avec eux ?
Cette réflexion intervenait dans le cadre de l'éducation civique, mais dans le prolongement d'une partie du programme d'histoire en rapport avec la guerre froide et en rapport avec les guerres de décolonisation, y compris la guerre d'Algérie. La guerre froide, on voit bien qu'il y a différents points de vue pour expliquer la guerre froide. Ils ont clairement été conscients dès le début qu'il y avait le point de vue américain expliquant ce que c'était que cette période, et puis le point de vue soviétique était une lecture complètement différente. Donc ils ont vu dans un premier temps qu'il y avait deux points de vue. Quand nous avons étudié la guerre d'Algérie, ils ont bien vu que d'un certain côté, on avait une lecture de l'État français qui disait que la guerre d'Algérie était une guerre civile, c'est pour ça que le contingent intervenait là-bas, etc. Mais que par ailleurs, les partisans de l'indépendance algérienne disaient non, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'indépendance. Ça veut dire que le positionnement que deux points de vue pouvaient avoir sur une situation, c'était essentiel pour eux de faire le tri un petit peu entre les deux, en comprenant qu'il ne fallait pas se positionner uniquement d'un côté ou uniquement de l'autre, mais de lire les deux côtés pour bien comprendre la situation et ensuite construire son propre raisonnement. L'école est là pour faire des gens intelligents, pas intelligents parce qu'ils ont plein de connaissances, mais intelligents parce qu'ils savent réfléchir aux situations auxquelles ils sont confrontés.
Créer de l'intelligence, développer le sens critique de ses élèves, Ronan Chérel a aussi décidé de mettre ses élèves dans de vraies conditions de rédaction en créant Mediaparks, une revue mensuelle. On vous en parle juste après la pause.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine à Rennes où Ronan Chérel, ce professeur d'histoire-géographie, enseigne au collège Rosa Parks du quartier Villejean. Il enseigne également en prison. Il a choisi il y a quelques mois de retrousser ses manches pour lutter contre le complotisme, le conspirationnisme et la crédulité de ses élèves. Nous consacrons notre première émission spéciale théorique du complot et médias à ce jeune enseignant. Il est au micro de Mélissa Barra.
L'année dernière, mes élèves étaient placés dans une posture d'analyse des médias et de production intellectuelle individuelle, visionnant les informations quotidiennes sur TF1, le journal télévisé, ou allant croiser ces informations-là avec d'autres médias d'information, puis ce qu'ils voyaient aussi sur Facebook. Ils ont déjà déterminé qu'il y avait différents types de médias qui existaient. Quand on parle de médias, il faut savoir que médias, ça veut juste dire intermédiaire au final. C'est quelque chose qui se situe entre deux parties. Ils ont compris qu'il y avait différents types de médias et qu'on ne pouvait pas accorder le même crédit ou la même importance à tous les médias. Il fallait hiérarchiser. Il existe des médias d'information qui distribuent des informations. Il faut les critiquer, il faut croiser ces informations-là pour les vérifier, utiliser des quotidiens et des mensuels quand on parle de presse papier, aller sur internet, utiliser la radio, la télévision, et ce n'est qu'au croisement de tous ces axes-là dans le temps et sur des formes différentes que l'on finit par déterminer un petit quadrilatère ou un petit triangle qui s'approche précisément de la vérité. Mais il n'y a pas de point vérité, il n'y a qu'une zone vérité plus ou moins précise selon ce que chacun est capable de construire avec les documents qu'il a à sa disposition. Donc, à partir du moment où ils avaient compris la différence entre les médias, ils savaient qu'il y avait des médias d'information, qu'il y avait des médias culturels ou de loisirs, parce qu'une émission à la télévision de jeux télévisés, en soi, c'est un média, ça passe sur la télé, donc c'est un média, mais ils se sont dit, oui, mais on ne donne pas d'informations. Dans ce cadre-là, ce n'est pas pareil. Il y a donc les médias d'information, les médias de loisirs, et puis le troisième média, c'est les médias sociaux. Ils se sont rendus compte qu'en fait, Facebook, Twitter, tous les autres, permettaient à chacun de donner son avis, que finalement, c'était bien pour la liberté d'expression, c'était bien un média, puisque ça offrait la possibilité d'échanger. Sauf que ce n'était pas un média rationnel, hein, c'était pas un média qui apportait une information. Facebook ne dit rien. Facebook offre juste une plateforme où chacun peut dire un peu ce qu'il veut. Donc, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Ils l'ont compris, à partir de là, ils savaient faire la différence entre les trois types de médias. Je pense que un travail sur les médias est extrêmement cohérent pour permettre à des individus de construire un raisonnement logique sur qu'est-ce que je reçois comme information et que je valide et qu'est-ce que je rejette. En classe, avec les élèves, je leur dis: le premier réflexe que vous devez avoir face à tout type de document, c'est faire la différence entre ce que je vois, et dans ces cas-là, vous n'utilisez que vos yeux, si c'est une image, c'est-à-dire débrancher son cerveau. Il n'est pas question de réfléchir à la chose, à l'image. Qu'est-ce que je vois? Et de détailler au maximum ce que je vois. La deuxième étape est d'analyser ce que j'ai vu pour essayer de voir quelles sont les pistes, quels sont les sens qui existent. Et puis enfin, d'interpréter cette image, c'est-à-dire l'explication complète de qu'est-ce que ce document me fournit comme information. Le problème, c'est que si cette démarche peut être systématique sur beaucoup de documents, dans un univers saturé d'images, saturé d'informations, comme notre société actuelle, on ne peut pas faire ça en permanence. Nous baignons dans l'image en permanence et dans l'information en permanence. Ce qui fait que cette démarche-là est essentiel, mais nous ne parvenons pas, nous n'avons pas le cerveau capable de le rendre systématique face à tous les médias auxquels nous sommes confrontés. Et quand nous sommes face à la télévision, le danger est 10 fois pire, parce que si nous prenons une seconde, en une seconde, nous recevons de 24 à 28 images dans notre cerveau que nous devons analyser, certes très très proche, mais c'est quand même 24 images secondes. Nous recevons en même temps la parole en voix off d'un journaliste qui nous dit ce que nous devons penser. Nous recevons une musique qui est là pour évoquer, pour éveiller chez nous une forme de sensibilité à l'ambiance. Nous recevons les bruits d'ambiance liés à ça, et ça veut dire que sur une seconde et sur une seule seconde, nous sommes confrontés à différentes formes de médias entrelacés. Et à partir de là, c'est extrêmement difficile d'avoir un recul intelligent face aux images télévisées. Par contre, si on ne peut pas le faire sur une seconde, essayons de le faire sur des séquences ou sur des films entiers et d'avoir du recul par rapport à ça. Mais c'est un recul critique qui est essentiel. À partir de là, le journalisme peut très bien faire son travail. Il y a une éthique par rapport à ça, et cette éthique est en rapport avec la pensée des Lumières, l'éthique historienne. On retrouve finalement la même chose, c'est-à-dire ne pas mentir sur la situation que j'observe, ne pas faire dire ce que je veux aux gens. C'est les laisser dire, les laisser témoigner, respecter leur témoignage, respecter leurs paroles, et ne pas déformer quel a été leur point de vue ou leur positionnement. Qui fait que après on se sent c'est une forme de viol intellectuel. Si je dis quelque chose à la radio et qu'au final le message est complètement différent, c'est pour ça que la société se sent très fortement trahie par les médias, parce qu'à partir de là on sait très bien que avec les logiques économiques de vendre un document, les médias sont impliqués. Et ça veut dire qu'une partie de la société peut se sentir donc trahie parce que exploitée, on a dit quelque chose sur moi et je ne me ressens pas dans l'image qu'on a véhiculée sur moi. Mais par ailleurs, la société est énormément responsable parce que c'est elle qui regarde la télévision et qui cautionne ce fonctionnement-là des médias. La responsabilité est complètement réciproque. Ça veut donc dire qu'à partir de là, il faut reconstruire une nouvelle logique éthique. Et s'il y a théorie du complot, c'est parce qu'elle est capable de se glisser entre ce dysfonctionnement des médias et cet appétit parfois malsain et voyeur de la société. Donc je pense qu'il n'est pas question de critiquer, de rendre responsable les médias par rapport à la diffusion des théories du complot ou de rendre la société particulièrement crédule. Dans les deux cas, c'est juste un tiers qui se glisse dans la liaison entre deux parties.
1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000. Le ministère de la Justice publie un manuel antiterroriste avec le World Trade Center en visée. Septembre 2000. Le Project for a New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie son rapport intitulé « Reconstruire la défense de l'Amérique ». Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra sans doute du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés « Mascal », simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment.
Et donc pour revenir donc à la déontologie journalistique, vous avez décidé de mettre en pratique avec vos élèves ces principes de déontologie journalistique. Comment ?
Cette année, j'ai mis en place un protocole leur permettant de créer, pas un petit journal du collège, parce que ce n'est pas la même démarche. C'est une autre difficulté que de créer un journal du collège, parce qu'on parle de collégiens à des collégiens. C'est très difficile. Ce qu'il a été question de faire donc dans ma classe, dans tout mon cours, c'est de construire un média s'appuyant sur une éthique journalistique qui permet de développer chez les élèves un regard responsable et une écriture responsable, ce qui leur impose de vérifier leurs sources quand ils disent quelque chose, parce que comme ils sont responsables, ils ne peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi ou de véhiculer quelque chose où on pourrait les contredire. Ils doivent être absolument honnêtes et impartiaux. En gros, les mettre dans une posture de devenir des journalistes, les fait acquérir une éthique intellectuelle à travers l'exercice journalistique, les fait mettre en avant l'écriture de leurs avis ou de leur positionnement honnête et citoyen dans un média qui sera diffusé auprès d'autres personnes qui pourront avoir un regard critique et leur dire, sur ce coup-là, ce que vous avez dit, c'est extrêmement intelligent, mais là, vous n'avez pas été bon. Donc ça veut dire qu'ils s'exposent aussi à la critique des autres. Ce faisant, ils ont l'absolue obligation de pouvoir se défendre, donc d'être cohérents dans leur écriture et dans leur recherche.
La salle où Ronan Chérel donne son cours est devenue depuis la rentrée une véritable salle de rédaction. Sur les murs sont affichées, page par page, les maquettes de la revue Mediaparks qu'il a créée avec ses trois classes de quatrième. Le titre est un clin d'œil au site d'information Mediapart, et c'est aussi un jeu de mots avec le nom du collège, Rosa Parks, cette afro-américaine qui a défié les lois ségrégationnistes des États-Unis en 1955 en refusant de céder sa place à un blanc.
Mediapart, c'est deux choses différentes. C'est une vocation citoyenne permettant de valoriser le travail des élèves. À chaque heure de cours, un élève écrit quelque chose dans son cahier. Pourquoi ne pas exploiter ce travail-là, qui peut être de très très grande qualité, en montrant à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes connaissances, des parents ou des gens dans la société civile, tout le monde peut apprendre des élèves, puisque les élèves apprennent des autres, donc on a des choses à partager. Donc c'est une Mediapart, c'est un partage. C'est un partage de connaissances, d'analyses ou de réflexions sur des thèmes sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Mediapart, c'est un mensuel, donc il y a un dossier thématique chaque mois pour chaque numéro, et sur l'année différentes thématiques seront abordées. Le premier numéro était sur la liberté. Les élèves ont en conférence de presse cherché à travailler ensuite sur l'égalité, ça leur semblait important. Le troisième numéro sera sur la vérité, donc directement en rapport avec qu'est-ce que c'est que la vérité et comment est-ce qu'on fait le tri entre différentes vérités. Les numéros suivants sur l'année seront sur la notion de puissance. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la puissance qu'il y a forcément des confrontations ou des enjeux de pouvoir entre les sociétés? Il y aura un numéro sur les murs qui séparent les hommes. Ça sera très intéressant d'ailleurs de demander le point de vue aux prisonniers aussi sur qu'est-ce qu'ils pensent des murs qui nous séparent, parce qu'il y a des murs visibles, mais il y a aussi des murs invisibles. Il y a des murs liquides, la mer Méditerranée par rapport aux réfugiés venant d'Afrique ou du Moyen-Orient, la mer Méditerranée est un mur liquide. On ne franchit pas ce mur comme ça.
On peut voir la maquette. Donc là, on a le chemin de fer, comme on appelle les différentes pages qui se suivent dans un magazine ou dans un journal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer donc les différentes rubriques ?
Donc en fait, la classe entière est organisée comme une salle de rédaction. Il n'y a plus de rangée d'élèves de manière traditionnelle. Il y a des points d'atelier, des regroupements de tables sous forme d'îlots que les élèves s'approprient. Ils peuvent déplacer les tables durant l'heure ou en arrivant en classe par rapport à un projet qu'ils ont pour une heure précise. C'est-à-dire qu'arrivant en classe, on précise où est-ce qu'on en est rendu les uns les autres, quelles sont les tâches accomplies, quelles sont les tâches à accomplir et quelles sont la façon dont nous allons résoudre tel ou tel problème que nous rencontrons par rapport à une thématique en rapport avec le cours, avec le programme d'histoire ou le programme des géographies essentiellement. Donc à partir de là, dans cette classe, à part les tables, il y a un grand tableau en bois sur lequel nous avons punaisé le chemin de fer du nouveau Mediaparks que nous allons produire. Donc le numéro 1 était sur la liberté, donc il y a encore, comme nous préparons seulement le Mediaparks numéro 2 sur l'égalité, le numéro 1, il y a encore le chemin de fer qui est présent au tableau avec les différentes rubriques que nous allons suivre dans les différents numéros de l'année. La couverture du numéro 1 sur le Mediapart sur la liberté est intitulée « Liberté, où te caches-tu ?» C'était donc Solène qui a été photographiée, qui est derrière un grillage. La photo est très touchante puisqu'il y a l'ombre du grillage à cause du soleil qui se répercute sur le visage et qui cisaille le visage de Solène. Donc l'image est très très forte. Cette photo est particulièrement touchante parce que nous avons évoqué la question des réfugiés arrivant en Europe et c'était directement en rapport avec notre programme de géographie. Puisque quand on doit parler des flux de population dans le monde, et ben plutôt que de choisir un exemple qui soit moins parlant, on a utilisé et l'actualité et les documents que nous avions à disposition pour expliquer ce que c'était que la question des réfugiés. Sauf que comme nous sommes des journalistes responsables dans Mediaparks, on n'a pas jugé de la situation des réfugiés, nous avons dû expliquer la situation des réfugiés et confronter ça à la notion de liberté. C'est-à-dire que si nous avons la liberté de mouvement, comment se fait-il qu'on ne peut pas entrer comme on veut en France? Ben, ce n'est pas possible parce que les choses ne sont pas simples. C'est pas aussi évident que ça de mettre en place l'égalité parce qu'il y a d'autres contraintes économiques qui doivent être expliquées. considérant qu'en fait, quand on parlait de liberté de mouvement, ils se sont rendus compte que dans les premières sources qu'ils ont trouvées, dans les informations, etc., il y a plusieurs mots qui revenaient. Il y avait le mot réfugié, il y avait le mot immigré. La première démarche intellectuelle que l'on doit accomplir quand on est face à un questionnement, c'est déterminer quel est le sens des mots. Parce que si on n'est pas capable de tous préciser quelle définition on va donner aux mots de vocabulaire, eh ben, on va croire qu'on est tous d'accord, et puis c'est pas du tout le cas. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui doit vraiment être précisé d'emblée, et en ça, c'est exactement la même démarche que l'on retrouverait en voulant rédiger à l'université une dissertation d'histoire ou une dissertation de géographie. Donc on est vraiment dans une démarche intellectuelle globale. La définition des termes du sujet. Pour eux, c'est devenu un point essentiel et ça méritait carrément d'écrire un article complet dans le Mediapart numéro 1. Donc, ils ont souhaité préciser la différence entre immigrés et réfugiés et ils se sont appuyés pour ça sur une définition juridique. Les réfugiés ont un certain nombre de droits, peuvent toucher un certain nombre d'allocations. L'immigré n'a plus du tout les mêmes possibilités et l'immigré clandestin n'a même pas d'existence légale dans un pays. Donc, ils ont souhaité un petit peu baliser tout ça pour préciser qu'on ne pouvait pas tout mélanger. Je suis émigré, je suis réfugié, mais finalement on peut très bien être les deux, on peut très bien vivre avec des gens qui ont des identités partagées comme ça, et puis malgré tout, qu'est-ce qui est important derrière tout ça, c'est que ce sont des sensibilités humaines, il y a des êtres humains derrière chaque chose que l'on évoque dans les articles. Quand on fait des statistiques ou quand on place des chiffres dans nos articles, les élèves ont toujours à cœur de préciser que ces chiffres sont là pour déterminer des groupes ou des parts dans la globalité, mais que derrière chacun de ces chiffres, c'est une humanité qui est déguisée et qui doit être respectée avant tout. Donc c'est pour ça qu'on parle de journalisme humain et éthique, c'est parce qu'on n'oublie jamais la dimension humaine dans ce que nous écrivons.
On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, Magide s'en va. Et nos rêves, qui dans les bois.
Avec Mediaparks, Ronan et ses élèves se servent du journalisme comme bouclier contre les réflexes conspirationnistes. Et en tant qu'historien, le professeur s'est de son côté intéressé au fonctionnement des théories du complot pour tenter de comprendre les logiques qui sont à l'œuvre.
Parler des complots relève aujourd'hui d'une compétence spécifique, quasi d'une spécialité. C'est-à-dire que la pensée complotiste n'est pas incohérente, elle est extrêmement cohérente, elle est extrêmement bien construite. Si l'on part du principe que l'origine de la réflexion occidentale, c'est-à-dire le fait de dire quelque chose et de le prouver en s'appuyant sur des exemples concrets, vérifiables, si l'on part du principe que cette manière de fonctionner en Occident est la pensée issue des philosophes des Lumières, considérons que les philosophes des Lumières ont eu deux enfants. Un enfant parfaitement construit, qui est la pensée qui a construit la science en Europe, la recherche scientifique, la démarche argumentée que nous donnons en classe et que nous apprenons tous à maîtriser, parce que c'est ce qui détermine dans un procès ou dans la rue ou ailleurs, que quand on dit quelque chose et qu'on est capable de le prouver, c'est ce qui fait qu'on a raison. C'est le fonctionnement de l'argumentation traditionnelle, ça nous vient de la Grèce ancienne, mais ça a été très nettement amélioré de manière expérimentale par les philosophes des Lumières. On pourrait dire que c'est l'enfant légitime, l'enfant construit de manière cohérente des Lumières. Imaginons que de la même manière, un deuxième enfant est né, mais que cet enfant s'est construit de manière divergente, et pas divergente dans le souci d'avoir une identité juste différente. Divergente dans le sens d'un esprit qui utiliserait les mêmes compétences, les mêmes qualités, mais pas du tout dans le même but de comprendre de manière juste ce qui se passe, mais de construire une argumentation de manière rhétorique. L'objectif n'étant pas d'être juste en ayant raison, mais de prendre le dessus sur d'autres argumentaires quoi qu'on ait pu dire ou quoi qu'on ait à dire, c'est-à-dire d'avoir raison par-dessus la vérité.
Et si les Schtroumpfs n'étaient qu'une propagande de l'idéologie communiste ? Réfléchissez, c'est l'histoire d'un groupe tous habillés pareil qui vit sans argent et partage tout. Comme chez les soviétiques, ils sont obligés de travailler et leur chef, le grand Schtroumpf, a un pouvoir absolu. Les Schtroumpfs portent en plus un bonnet phrygien, symbole des révolutions. Leur maison en champignons, elle, rappelle étrangement le Kremlin. Coïncidence ? Je ne crois pas.
Je ne dis pas que les gens qui développent des pensées complotistes sont des imbéciles. Ce n'ont certainement pas des imbéciles. Je dirais que ce sont mes pères en termes de réflexion. Mais la différence entre moi et eux, c'est qu'en histoire, nous avons une règle sainte qui est au-dessus de nos identités individuelles. C'est de dire que nous sommes responsables de nos paroles. Collectivement, c'est-à-dire qu'un individu, un historien qui dit n'importe quoi, c'est toute la communauté des historiens qui risque d'en subir l'opprobre, et donc c'est la communauté des historiens qui se retournera contre cette personne et qui dira « ta pensée est révisionniste, ta pensée est négationniste, tu ne fais pas partie de cette communauté parce que tu te marginalises. Ce n'est pas parce que tu as des idées différentes que tu te marginalises, c'est parce que tu commets le sacrilège suprême dans notre foi d'historien, c'est que le document est sacré et que je ne fais pas dire au document ce que je veux. C'est le document qui dit quelque chose et moi, je travaille sur ce que dit le document. Le document n'est pas mon outil, je suis au service du document. Ce qui fait que l'historien est au service de la vérité historique, alors que le complotiste plie le document, plie les preuves qui sont à ses dispositions pour promouvoir la vérité qui lui sert à lui, qui lui semble cohérente à lui.
Quelle est la vérité du complotiste globalement ?
Le complotiste dit qu'il y a un complot partout, c'est-à-dire que chaque événement qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité est en rapport avec le complot d'un groupe ou d'un ensemble de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accident de l'histoire, il n'y a pas de hasard de l'histoire, tout s'explique, tout a une cause. Ça veut donc dire que derrière chaque événement, il y a un responsable, voire un coupable. La question première à laquelle répond le complotiste, c'est à qui profite le crime, et construit tout son raisonnement sur l'idée qu'il y a un bénéficiaire à chaque événement qui arrive. Alors certes, l'histoire peut être ponctuée de complots, puisque le complot est une dynamique de l'histoire. Dès qu'il y a du pouvoir quelque part, il peut y avoir un groupe de personnes qui, se sentant un petit peu en faiblesse, estime devoir agir de manière secrète pour obtenir du pouvoir. Mais de là à dire qu'il y a un complot mondial, millénaire, et que tout est connecté, c'est complètement vide de sens. Et un complotiste attaquant le sens des choses en disant que, par exemple, cette vérité-là n'est pas vraie, en posant le postulat critique sur la vérité qu'on me propose n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout est contestable. Au final, suis-je bien l'enfant de mes parents ? Pourquoi il n'y aurait-il pas un complot qui ferait que j'aurais été enlevé, placé à cet endroit-là, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me place, moi, dans une logique complotiste, je peux très bien vider de sens toute l'histoire de l'humanité, mais toute ma propre histoire. Je ne juge pas les gens qui cautionnent la logique complotiste, mais je pense que c'est extrêmement pernicieux et dangereux pour leur compréhension du monde et la perception de leur propre identité. Parce que je crois que quand on rentre dans une logique complotiste, il n'y a plus rien en quoi on puisse croire. On ne peut plus croire ses parents, on ne peut plus croire son entourage, on ne peut plus croire ce que l'on voit. On estime qu'on est soi-même manipulé ou manipulable. C'est extrêmement dangereux. Et pour une société, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de confiance entre individus, donc plus de société, plus de politique, plus de démocratie, plus de liberté d'expression, plus de possibilité d'échanger. Il n'y a plus que le doute permanent sur la personne que j'ai près de moi. La logique complotiste, de près ou de loin, est une logique paranoïaque.
Et quel est le danger pour les adolescents d'accéder, voire d'adhérer à ce genre de discours ?
D'un point de vue personnel, d'historien et d'enseignant, les sources ne sont pas ce qui est dangereux. Les endroits où nous allons chercher des informations ou les informations que nous trouvons ne sont pas en elles-mêmes dangereuses. C'est la façon dont nous cautionnons ces sources, dont nous décidons de valider ce qu'elles disent, qui est dangereux. Entre guillemets, en parallèle, je dirais que ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la main de l'homme qui prend l'arme et qui l'utilise. De la même manière, ce n'est pas Mein Kampf qui aujourd'hui serait dangereux ou les différents écrits commis par les complotistes. C'est la façon dont une personne mal éduquée, fragile, en doute par rapport à sa place dans la société ou sur le fonctionnement du monde, ira y chercher des réponses et utilisera ces documents-là pour construire son raisonnement. C'est là que c'est dangereux. En gros, c'est dans la façon dont un individu va dysfonctionner dans le travail sur un document. C'est-à-dire que si l'individu n'est pas capable d'avoir un recul critique sur le document, il risque de se faire complètement absorber par le document. Et à partir de là, de véhiculer ce message-là de manière complètement incohérente et de contaminer d'autres personnes avec ça.
Merci à Ronan Cherel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci au Collège Rosa Parks, aux responsables de l'Académie de Rennes qui nous ont donné leur accord. Merci enfin à ses élèves. La semaine prochaine, nous continuons à explorer le phénomène du conspirationnisme pour mieux le comprendre. Comment a-t-il émergé? Quel est son fonctionnement? Comment se diffuse-t-il? Des éléments de réponse dans notre émission à venir.
L'Atelier des médias.
C'était l'émission numéro 401 de l'Atelier des médias, un atelier dédié cette semaine à Lola Saline. Lola était une amie de ma femme. Elle a été tuée vendredi dernier au Bataclan. Je pense à elle, à sa famille, à ses amis. Je pense bien entendu aussi à toutes les victimes des tueries de vendredi dernier, aux mortes, aux morts, aux blessés et aux survivants. J'ai toujours été, je suis encore et je serai toujours parisien. L'Atelier des médias est signé Simon De Creuse, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilet Sadaoui, Raphaël Constant et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
Il fait semblant d'être content, mais tu as mal. Fais semblant.